Alors oui, ces 70 ans, c'est un moment important parce que on voit que tout ce qu'un homme comme l'abbé Pierre, avec son charisme, sa volonté, sa détermination, sa constance, a pu créer comme réponse pour les personnes les plus défavorisées, que ce soit les communautés Emmaüs, toutes les actions menées à l'international, la Fondation Abbé Pierre, bref, toute une palette d'actions qui montrent que, voilà, quand on veut faire des choses, eh bien, ça permet d'apporter des réponses concrètes aux personnes. Donc, c'est aussi un message d'encouragement, je pense, à la société, que de voir ce que ce mouvement Emmaüs, en 70 ans, a pu créer. Après, effectivement, il y a des sujets d'inquiétude majeure qui persistent au-delà de ce que font les associations dans leur ensemble. Des nouveaux profils, notamment de femmes seules avec enfants, qui sont particulièrement confrontées à des situations de pauvreté, de précarité très importantes. Des personnes qui sont en situation de migration parce qu'elle fuit la guerre, parce qu'elle fuit des difficultés économiques et qui se retrouvent pour certaines très démunies dans nos pays, comme dans d'autres d'ailleurs, et pour lesquelles on sent que les réponses ne sont pas adaptées à l'ampleur finalement de ces difficultés. On peut penser peut-être aussi aux jeunes qui sont surreprésentés en quelque sorte dans les demandes d'aide, les sollicitations sur le terrain. Un sujet qui nous inquiète profondément à la Fondation Abbé Pierre parce que quand on a 20 ans et que notre quotidien est occupé à survivre plus qu'à construire son avenir, eh bien évidemment, c'est très préoccupant.
Alors, 70 ans après le lancement du mouvement Emmaüs, le problème du logement des personnes démunies est toujours d'actualité. Pouvez-vous dresser un état des lieux de ce que vous appelez le mal-logement en France?
Alors, le mal-logement recouvre des catégorisations différentes de situations, de difficultés vécues en termes de logement. Ça recouvre les personnes qui sont sans domicile, sans abri, mais ça peut aussi recouvrir des personnes qui ont un logement, mais par exemple un logement dangereux pour la santé, mais un logement beaucoup trop petit pour la taille de la famille, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Donc, cette notion de mal-logement, elle recouvre tout ce qui renvoie à des souffrances liées à l'absence de logement, à la privation de logement ou à des logements qui ne sont pas adaptés. En France, on compte aujourd'hui 4 millions de mal-logés sur une population de 67 millions de Français. Alors, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, on observe que si on compare avec ce qui s'est passé à l'après-guerre, par exemple, et la naissance du mouvement Emmaüs, il y avait eu beaucoup de destruction de logements. Donc la période qui a suivi a donné lieu à une reconstruction forte de logements démolis pendant la guerre et des perspectives données aux personnes en situation de fragilité intéressantes par la construction de logements sociaux, la résorption des bidonvilles. Donc on avait assisté à une amélioration. Et puis, dans les années 80, avec le chômage de masse, le phénomène des travailleurs pauvres, des working poor, on a assisté à un ancrage des difficultés et à un élargissement des personnes victimes de la crise du logement, essentiellement pour deux raisons. On a vu que les ressources des ménages diminuaient du fait du chômage ou le fait de cumuler des emplois partiels, des missions d'intérimaire, des gens qui travaillent mais dont les ressources sont en dessous du seuil de pauvreté. Et puis, simultanément, on a vu augmenter très très fortement, notamment aller dans les années 2000-2015, les coûts du logement dans les grandes villes, c'est-à-dire les loyers qui ont augmenté, les charges qui ont flambé avec l'énergie qui a vraiment eu des augmentations très fortes, les prix de l'immobilier. Et ce double phénomène de précarisation des ressources d'un côté et de hausse des coûts du logement a créé une forme d'exclusion de tout un pan de la population qui était autrefois protégée de ces difficultés et qui se trouve en concurrence sur ce marché du logement. Et donc, les personnes les plus fragiles, celles qui ont vécu des choses les plus difficiles dans leur vie, ont vraiment du mal à trouver une solution adaptée de logement de qualité aujourd'hui dans les grandes villes.
Et pour quelles raisons, à votre avis, les pouvoirs publics ne sont pas parvenus à résoudre cette problématique du logement? Vous avez mentionné la conjoncture économique. Est-ce la seule raison?
Non, c'est pas la seule raison. Alors, il y a plusieurs raisons. Dans les grandes villes, par exemple, il manque de logements, quantitativement parlant. Et du coup, on voit bien que ça crée de la concurrence et ça fait monter les prix. Après, il y a bien sûr la conjoncture économique et le niveau des salaires ou le chômage de masse, qui est vraiment un sujet inquiétant, c'est-à-dire que les gens n'ont pas assez de sous pour se loger, en quelque sorte. Et puis, en fait, ce problème du mal-logement, il est finalement l'amortisseur ou le symptôme de plein d'autres crises. La crise migratoire, on l'évoquait rapidement tout à l'heure. Par exemple, la fermeture des lits d'hôpitaux psychiatriques dans les années 70, où on a commencé à dire, bon, bah, ces personnes qui ont vécu des choses difficiles ou qui ont des problèmes psychiques, eh bien, elles peuvent vivre dans la vie comme tout le monde. C'est plutôt une bonne idée. Mais on n'a pas forcément accompagné ce mouvement de fermeture des lits psychiatriques. Et donc, il y a des personnes qui se retrouvent bien seules, sans les soins qui pourraient les aider. Et du coup, on a une conjoncture de phénomènes qui ne sont pas que liés au logement, même si certains, comme je le disais, l'insuffisance de construction dans les grandes villes, eh bien, tous ces facteurs interagissent pour créer les tensions que nous connaissons aujourd'hui sur ce front du mal-logement. Donc, les pouvoirs publics, il faut qu'ils aient une action beaucoup plus volontariste pour aborder cette question du logement, mais pas seulement, toutes ces autres questions sociales, parce que cette crise, elle ne se résoudra qu'en actionnant simultanément tous les leviers des sujets qui provoquent ces exclusions.
En 70 ans, malgré tout, des pas importants ont été accomplis par la Fondation Abbé Pierre.
Oui, par les pouvoirs publics sur un certain nombre de choses. On peut dire la protection sociale, elle a évolué de façon plus positive, satisfaisante. La Fondation Abbé Pierre, elle, donc, elle est née en 92, enfin en 88, mais elle a pris son envol en 1992. Depuis, elle apporte des réponses à des milliers de personnes parce qu'elle finance 900 projets par an, que portent 450 associations. Elle construit du logement, elle construit des lieux d'accueil pour les personnes sans abri, elle crée des lieux d'accès aux droits pour les personnes en difficulté de logement. Elle intervient aussi à l'international. Donc bien sûr, c'est un effort sans relâche tous les jours et qui se fait grâce à des donateurs qui nous font confiance parce que la Fondation n'a quasiment pas de subvention publique. Elle a 1% de son budget en subvention publique. Donc c'est aussi la preuve d'une forme de générosité, de volonté, de solidarité qui s'exprime. Et nous essayons le mieux que nous puissions d'apporter des réponses concrètes. Mais ça ne peut pas suffire par rapport au chantier qui reste à mener. Et il faut que, à côté de ces actions associatives de la Fondation Abbé Pierre, du mouvement Emmaüs et bien d'autres, il y ait des politiques publiques qui structurellement apportent les réponses via des fiscalités plus solidaires, plus redistributives, via des dispositifs sociaux qui peuvent embrasser plus largement l'exclusion que nous connaissons dans notre pays ou dans l'Europe ou dans le monde d'ailleurs. Donc on voit bien qu'il faut cette action associative, mais il faut que nous soyons aussi en proposition pour pousser des politiques plus solidaires à l'échelle du monde et à l'échelle aussi de notre État-nation qu'est la France.
Et finalement, en cette année anniversaire et à l'approche de l'hiver, qui est une période toujours très compliquée pour les personnes sans logement, quel appel nous lance la Fondation Abbé Pierre ?
Nous pensons qu'aujourd'hui, la situation des personnes sans domicile s'aggrave dangereusement. Les statistiques disponibles de la statistique publique sont un peu anciennes, mais elles ont montré quand même qu'en 10 ans, il y a eu une augmentation de 50% du nombre de personnes sans domicile. On ne peut pas rester dans cet état de fait. On ne peut pas se limiter à ce constat. Vivre dans la rue, être contraint de vivre à la rue, c'est un échec considérable de toute la société. Donc l'appel, c'est une mobilisation de tous, de l'État, des collectivités locales, des associations, des citoyens. Nous devons refuser cette situation et devons tout mettre en œuvre pour trouver des solutions de logement, un accompagnement social, de main tendue à des personnes qui ont vécu des choses difficiles et pour ces raisons-là se retrouvent dans la rue. On ne peut pas s'habituer. L'abbé Pierre nous disait, ne nous habituons jamais à cet état de fait, à cette réalité, pardon, qui douloureusement s'offre à nous en visibilité et en tragédie humaine. Donc cet appel, c'est de dire, ne nous habituons pas et faisons tout ce qui est en notre pouvoir collectivement pour trouver une solution à chacun de nos concitoyens en souffrance aujourd'hui.